Chers amis auditeurs, vous écoutez le Libre Journal des Littératures. Bonjour pour ceux qui nous écouteront en différé sur Internet. Bonsoir pour ceux qui nous écoutent en direct. Journal animé comme de coutume par Hector Burnouf. Je suis ce soir abandonné de mes assistants et co-animateurs habituels, mais accompagné de quelques valeureux chroniqueurs. Nous parlons ce soir d'un grand inconnu. Non pas que son nom le soit, il est très connu, mais son parcours reste très mystérieux et jalonné d'incompréhension. Grand homme de province monté à Paris, il s'éloigne d'abord d'attaches locales et familiales. Il fut un flamboyant dandy fin du siècle. Il a écrit sur le moi, revendiqué son subjectivisme intégral, expliqué qu'il ne voulait pas être prisonnier d'une origine, d'une mémoire ou de mort. Il a revendiqué sa liberté cosmopolite, s'intéressant à l'Asie, parlant de l'Allemagne et de l'Angleterre comme maîtresse de civilisation. Il a fait l'admiration du tout Paris, côtoyant les plus hautes autorités de la République, on l'appelait le prince de la jeunesse. Honoré de son vivant, respecté de ses adversaires, ami de Léon Blum et de Poincaré, il a fait l'unanimité pour lui de son vivant, presque. Il a même, au début du siècle, honoré le patriotisme et la loyauté de citoyens français juifs. Je suis Emmanuel Godeau. Qui
Bonsoir.
suis-je?
Maurice Barrès.
Maurice Barrès, je crois. Le portrait n'est pas forcément intuitif. Pour autant, vous commettez aux éditions Talendier une biographie monumentale, Maurice Barrès, le grand inconnu. Pour vous présenter, Emmanuel Godeau, vous-même, vous êtes professeur en classe préparatoire, pas n'importe laquelle d'ailleurs, celle d'Henri IV. Vous êtes docteur, agrégé, poète. Pour présenter votre œuvre, vous êtes, je crois, égaré à Noël, passeur de l'absolu. Vous ne connaissez pas Barrès, puisque vous écrivez Le Grand Inconnu. On va voir qu'en fait, le titre également est contre-intuitif, comme le personnage. En tout cas, si l'on prend vos titres au mot. Nous vous recevons non pas comme poète, même si votre travail n'est pas sans lien avec ce qui suit, mais comme critique et historien de la littérature. Publiez en effet cet ouvrage, cette somme même, peut-on dire, fruit, je crois, de 30 ans de recherche. Première question, la plus attendue, mais peut-être pas la plus simple. D'où vous est venue cette passion pour Maurice Barrès et cette volonté d'écrire sa biographie?
Alors, mon premier contact avec Barrès, c'est en Cagne. C'est dans les années 1800, 1900, oh là, 1800, un lapsus, 1984, où mon professeur de Cagnes au lycée Condorcet, Jean Pillin, nous a fait découvrir la magie de la phrase barrésienne. Et j'étais ensorcelé par cette musique absolument inimitable de l'un de nos plus grands prosateurs. Et j'ai décidé de lui consacrer ma thèse de doctorat dans les années 90, 1990. J'ai travaillé sur la Venise de Barrès. Et puis, voyant arriver évidemment le centenaire de sa mort, je me suis dit que j'avais accumulé avec le temps une certaine documentation sur Barrès. On verra que c'est un auteur très complexe, avec des facettes qui peuvent paraître contradictoires. Et pour les agencer, je crois, il faut avoir une grande familiarité avec cette œuvre. Et effectivement, comme vous le disiez, j'ai un compagnonnage, une amitié, je dirais, littéraire pour Barrès depuis maintenant plus de 35 ans. Donc je me sentais légitime, si je puis dire, à faire entendre. Hein. Ce qui me paraît la cohérence de Barrès, par-delà évidemment les clichés dont vous avez déjà fait, auxquels vous avez déjà fait allusion, et puis les contradictions apparentes du personnage.
Alors, le nom ne résonne pas forcément aujourd'hui en bonne part, et c'est une amitié, mais une amitié que l'on peut dire ingrate. En parler aujourd'hui, comme vous l'avez fait, c'est presque se faire l'avocat du diable. Vous arrivez avec un pavé dans la mare, on peut le dire, de 600 pages. C'est une œuvre de réhabilitation, a même écrit un grand quotidien du Crépuscule. Alors, qu'est-ce qui le rendait nécessaire? Peut-être que d'ailleurs vous discutez le terme, mais cette œuvre de réhabilitation.
Réhabilitation, oui, eu égard aux clichés qui traînent sur Barrès, on réduit un immense écrivain à deux étiquettes, antisémitisme et nationalisme, sans savoir exactement ce que pense Barrès. Et donc, je vous dis réhabilitation, moi je dis que c'est une œuvre de justice, c'est-à-dire de dire, mais cet homme, si attachant, si ouvert, si hospitalier, qui a été d'une générosité ahurissante à l'égard notamment des jeunes écrivains de son temps et de ses contemporains, il a vraiment œuvré pour ses contemporains, le réduire à ces deux étiquettes-là, c'est une des plus grandes injustices de l'histoire littéraire.
Si l'on prend le champ des études barésiennes, y a-t-il des ouvrages qui vous précèdent? La Somme manquait-elle, justement?
Je crois que la Somme manquait dans la mesure où il a existé des biographies tout
on
à fait...
On peut les mentionner.
On peut les mentionner. François Broche a fait une très bonne biographie. Sarah Vajda, plus récemment, Yves Chiron ont fait de très bons travaux biographiques.
Jean-Marie Domenac.
Jean-Marie Domenac, en son temps, a été un des rénovateurs, si je puis dire, des études barésiennes. D'autres encore, il y a pas mal d'universitaires qui sont, qu'on pourrait mentionner. Mais je crois que ce travail que je propose... permet d'articuler pour la première fois l'écrivain et le politique sans assujettir l'un à l'autre, mais en rendant, je crois, l'équilibre assez nuancé que Barrès a cherché à obtenir toute sa vie.
Oui, en effet, la biographie aussi, on le dira assez élégamment, entre le Barrès historique, le Barrès politique et finalement le Barrès littéraire, et vous peignez une cohérence finalement, par-delà les contradictions apparentes. Quel fut l'écho de l'ouvrage? Avez-vous pu constater une attente de par sa réception?
Oui, l'écho a été très, très chaleureux, très complet, beaucoup de presse, beaucoup de retours de lecteurs. On verra, une association se crée bientôt autour des lecteurs de Barrès. Et on s'aperçoit qu'il y a des lecteurs passionnés de Barrès depuis des années, des décennies, et que, oui, ce travail a... je crois, rencontrer cette intuition a été confirmée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, la grandeur de Barrès, et là, je reviens sur ce terme, la générosité politique de Barrès, on ne peut pas la laisser au second plan. Et je crois que beaucoup d'esprits contemporains se rendent compte qu'il manque... D'abord à nos débats collectifs, à cette mémoire bon, qui de toute façon est délabrée aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais que voilà, il y a une véritable attente.
L'ouvrage est paradoxal, ne serait-ce qu'en tant que phénomène éditorial. Savez-vous qu'il est presque plus facile de se procurer cette nouvelle biographie de Maurice Barrès que les œuvres de Maurice Barrès lui-même?
Oui, alors les œuvres de Barrès ont été, il y a une très bonne édition bouquin qui en deux volumes, qui est très commode, qui a été notamment coordonnée par Vital Rambaud, qui est un excellent barésien. D'après mes informations, pour l'instant elle est épuisée, mais elle est en cours de réimpression. Donc il y a eu un mouvement autour de Barrès, cette biographie a relancé l'intérêt pour les études barésiennes, et donc je crois que c'est bientôt, enfin,
dans mon souvenir,
si les informations sont bonnes, ça devrait reparaître.
Dans mon souvenir, il fallait aller sur Amazon ou Le Bon Coin pour trouver des l'édition de Déraciné, qui était souvent une édition de poche qui traînait dans un vieux grenier.
Oui, on avait l'édition Folio, il y a eu quelques... Barrès a été effectivement...
On l'avait que d'occasion.
Oui. Mais d'occasion, oui, ouais. Oui, on le trouve abondamment, mais il faut aller le chercher, oui, malheureusement.
Bruno Santorin, vous êtes des nôtres ce soir, comme de coutume, désormais.
Oui, alors mon expérience personnelle, il y a quelques jours, je suis allé à la principale librairie du quartier latin, je demandais ce qu'ils avaient comme ouvrage de Barrès, et à part la collection bouquins, il n'y avait rien du tout. C'est peut-être une preuve d'intérêt, justement, que les rares exemplaires que l'on peut trouver s'arrachent de la part des passionnés.
Rappelons aux auditeurs que vous êtes historien. Comment avez-vous découvert Maurice Barrès, vous-même, à quel âge
environ? Durant l'adolescence, je crois, 16-17 ans, j'avais lu Colette Baudoche. Mais c'est surtout le style d'autres ouvrages qui m'a beaucoup plu. Le Gréco, le secret de Venise en particulier. Ces descriptions de Venise que j'ai relues pour cette émission qui sont vraiment incomparables.
Témoin de ce nouvel engouement, une nouvelle association. Le président est d'ailleurs des nôtres ce soir. Dominique Dechaire est avec nous.
Je suis là.
Par téléphone, vous nous appelez, je crois, de Cherbourg, une ville qui nous est familière. Vous présidez l'association, je crois, des lecteurs Maurice Barrès.
Oui.
Qui s'est fondée cette année à l'occasion du centenaire de sa mort. Alors pourquoi l'association Maurice Barrès? Quel est son objet? Quelle sera son activité? Pouvez-vous en dire davantage à nos auditeurs?
Oui, alors nous l'avons intitulé Société pour indiquer que c'était en fait une mise en commun d'une passion qui, en effet, comme vient de le rappeler Emmanuel Godot, est chez chacun assez individuel, assez... Barrès pour la plupart des lecteurs, justement, ce sont des de l'ordre de l'intime. Il n'y a pas, il n'y a pas de mouvement, j'allais dire, de parti, de même d'école. Le barésianisme, si on peut dire, ça n'existe pas. Ce sont des motivations personnelles. Et en créant cette société, on s'aperçoit, et surtout d'ailleurs autour de la nouvelle, de l'actualité la littéraire, éditoriale, que dans beaucoup d'endroits, beaucoup de personnes sont en fait des passionnés de Barrette, mais personne ne pensait à se regrouper pour faire œuvre commune, j'allais dire, autour de... Alors, c'est aussi une société des lecteurs. Alors, on m'a demandé plusieurs fois pourquoi on n'a pas mis des amis. Parce que, en effet, et d'ailleurs, la biographie de Manuel Godeau va dans ce sens, c'est l'œuvre, aujourd'hui, qui rassemble l'homme, sa vie, son histoire. Bon, elle est datée, elle est datée fin 19e, début 20e. Bon, c'est vrai que c'est pas ça qui, au départ, doit attirer. C'est l'œuvre qui passe les années, qui passe l'histoire, qui peut aujourd'hui encore parler à ses lecteurs. Donc, le but de cette société, c'est de montrer l'actualité de cette œuvre à travers... bien sûr, il y a eu beaucoup d'héritiers. Il y avait Malraux, Aragon, Monterland, etc. Mauriac, hein, tous ces gens-là, aujourd'hui, ont disparu. Et il ne reste plus grand-chose, donc, y compris même des héritiers de Barrès. Donc, pour retrouver un public, une audience, il faut essayer de raccrocher cette œuvre, ce qui est facile, justement, ce qui sera très facile, raccrocher cette œuvre aux préoccupations de notre temps. Et à cet égard, à mon avis, il y a beaucoup de pistes.
Alors, peut-être pouvez-vous en livrer quelques-unes aux auditeurs ? Sur quels axes allez-vous insister ?
Oui. Moi, j'ai tendance à penser, bon, bien sûr, nous sommes, ça dépend des générations, ça dépend des âges, mais je pense que notamment le culte du moi, qui a correspondu à la jeunesse de Barrès et à ce qu'il devienne à un certain moment de la fin du 19e, le prince de la jeunesse, et soit reconnu comme tel par beaucoup de jeunes ambitieux, individualistes. L'individualisme, quand même, c'est une marque aussi de notre époque. Et il faudrait revoir le culte de l'homme libre, surtout, par exemple, à la lumière des préoccupations des jeunes d'aujourd'hui.
L'association prévoit-elle... L'association prévoit-elle d'éventuelles publications, événements, colloques, commémorations ?
Alors, oui, alors, nous ne sommes pas... Bon, il y a beaucoup d'universitaires qui nous ont rejoints, mais, les colloques, ce sont les universités, les universitaires. Il y a beaucoup de colloques, même dont les travaux n'ont pas encore été publiés. Il y avait des thèses encore beaucoup, et nous ne sommes pas là pour soutenir, bien sûr, pour participer, et ce serait surtout pour réagir à partir de l'actualité en montrant ce que Barrès peut nous apporter. Oui. Alors, bien sûr, il y aura lundi, bien sûr, c'est l'anniversaire de la mort. Nous faisons une réunion à Paris au centre André Malraux. André Malraux, bien nommé, parce que André Malraux est vraiment un des disciples, un barésbis, je vais dire, dans son esprit. Donc, centre André Malraux, il est dans le 6e, rue de Rennes, nous avons une réunion, d'ailleurs, à laquelle Emmanuel Goudeau nous prêtera son talent pour nous mettre en valeur un aspect de Barrès. Et nous déciderons, il y a des académiciens, des membres de l'Institut, il y a des parlementaires, il y a des universitaires, il y a des écrivains, des essayistes. Il y a un peu plus de ça. Nous allons essayer de déterminer justement comment nous pouvons nous positionner à partir de Barrès pour l'an prochain. Il y a également une manifestation ce samedi, c'est-à-dire après-demain, à Charmes, sa ville natale, et là où il est enterré, parce qu'il est enterré dans son caveau de famille, là où il est né d'ailleurs, à Charmes, dans les Vosges. Il y aura donc un hommage qui lui sera rendu sur place. Parce que Barrès, certains à sa mort et après sa mort voulaient qu'il entre au Panthéon. Oui, l'audience qu'avait Barrès après la guerre mondiale.
Audience que vous allez lui redonner. Je lis aussi dans l'objet de l'association, cette déclaration officielle, qu'il sera question notamment de lieux décrits ou fréquentés par Maurice Barrès. Alors, y aura-t-il un Barrès Tour ? Vous devenir une agence de voyage, en quelque sorte.
Communication était mauvaise.
Oui, je mentionnais le projet de visites et de lieux décrits par Maurice Barrès. Allez-vous organiser des voyages ou un tour de France, Maurice Barrès ?
Il ne faudrait pas faire un tour de France, il faudrait un tour de la Méditerranée. Parce que Barrès, comme Malraux, a été attiré par l'Orient, mais l'Orient de Malraux commence là où l'Orient de Barrès s'arrête. C'est-à-dire Barrès est très attiré par le Proche-Orient. Il a défendu les chrétiens d'Orient, les missions... la présence culturelle française, là, c'est un point important. La présence française en Égypte, au Liban, d'ailleurs, Ben Rondeau, qui nous a rejoint aussi, qui est un amoureux du Liban, comme vous le savez, de la Méditerranée en général, est l'exemple type d'un Barrésien, vous voyez, enraciné dans sa Champagne, et qui, en même temps, est attiré par le Proche-Orient, et a beaucoup vécu et travaillé. Donc, ce qui m'a toujours, moi, personnellement, comme ancien ambassadeur, attiré, quand même, depuis l'adolescence, c'est un nationalisme ouvert sur le monde. Comme disait quelqu'un, plus on... internationaliste, plus on est national, plus on veut s'internationaliser. Vous voyez, c'est la projection de la France sur l'Orient, et l'Orient, il y a donc son dernier texte, le texte qu'il a d'ailleurs signé le jour de sa mort, c'est Enquête au pays du Levant, qui était un voyage qu'il avait réalisé en juin 1914, avant la guerre, et qu'il n'a mis sur au clair, sur le papier, qu'après la guerre. Et c'est remarquable, c'est absolument remarquable, et c'est très peu connu. Beaucoup de ses œuvres, d'ailleurs, les dernières surtout, sont très peu connues, sont confidentielles. Tous ses travaux parlementaires aussi. Sont presque quasi-confidentiels.
Cher Dominique de Scherff, merci beaucoup. Hélas, la connexion est très mauvaise, ce qui prive nos auditeurs peut-être de discours fluides que pourtant vous nous offrez. Nous vous souhaitons bien sûr le plus grand succès à l'association et invitons les auditeurs à se joindre à ce grand événement lundi, rue de Rennes, au centre, vous avez dit...
André Malraux.
En centre André Malraux. Vous êtes bien sûr bienvenu et vous pouvez également, en vous connectant sur Internet, découvrir l'association et éventuellement la soutenir. Rappelons, Dominique de Scherff, que vous êtes diplomate et également auteur d'une très belle biographie de Jacques Bainville. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Je reviens vers Emmanuel Godot. Une biographie, nous avons dit, presque un, du moins un grand quotidien du Crépuscule l'a dit, presque un procès en réhabilitation, ou en tout cas une enquête. Une enquête qui va aux sources de la sensibilité politique et littéraire de Barrès, et qui cherche à trouver, bien, la, décrire la formation de son style. Sans vouloir verser dans l'approche psychanalytique, la biographie que vous écrivez épouse une chronologie. Aussi, nous commençons avec l'enfance et la famille de Maurice Barrès. Et on comprend en vous lisant que la sensibilité du jeune Barrès a été rapidement éprouvée. On a eu l'impression que c'était un écorché vif. Et cela explique peut-être d'ailleurs les premiers ouvrages qu'il a commis. Alors qu'est-ce qui a pu troubler aussi jeune l'élève ou l'écolier de Lorraine qu'était Maurice Barrès ?
Ben, au collège de la Malgrange, c'est la découverte enfant sensible, enfant de constitution assez fragile, c'est la découverte de ce qu'il appellera plus tard les barbares, c'est-à-dire les goujats, c'est-à-dire ceux qui ont une vision plus brutale de l'existence. Donc il y a une vraie souffrance chez le jeune Barrès.
C'est harcelé.
Oui, pourrait dire ça comme aujourd'hui. Bien sûr. Il est moqué pour son physique, pour sa sensibilité. C'est quelqu'un qui a été élevé, enfin, dans un milieu favorisé, avec notamment une mère qui joue un rôle très important parce qu'elle est l'initiatrice, elle est celle qui fait découvrir la littérature, en particulier Walter Scott. L'univers, Dominique de Scherff parlait de l'Orient de Barrès. Le premier éveil à l'Orient chez Barrès, c'est via la mère qui lui lit Richard Cœur de Lion en Palestine de Walter Scott. Et puis, c'est une intellectuelle, elle lit, elle est abonnée à la Revue des Deux Mondes, elle lit Lamartine. C'est quelqu'un qui va jouer un rôle considérable dans l'enfance et dans la formation intellectuelle et de la sensibilité de Barrès.
Donc c'est une bourgeoisie intellectuelle presque voltairienne, finalement, très lectrice, très éclairée.
C'est une bourgeoisie lectrice, éclairée. Le père est plutôt un ingénieur, donc il y a ce qui est d'ailleurs déçu que son fils n'embrasse pas cette culture-là. Voltairienne, peut-être dans un sens très large.
Encyclopédiste.
Oui. En tout cas, on a un jeune homme qui découvre très vite la poésie, adolescent, avec son ami Stanislas de Gaeta. C'est le fameux épisode de la frénésie de poésie. On oublie souvent qu'il y a un soubassement poétique chez Barrès. Donc la découverte, évidemment, de Baudelaire, évidemment, de tous les la grande poésie parnassienne, romantique du 19e siècle. Voilà, c'est ce humus-là qui va germiner à Paris dans les années 1980.
Humus nourrit, je crois, un projet qui est un projet littéraire, qui est un projet de carrière, qui est presque aussi un projet esthétique. On comprend un peu mieux qui est Barrès en vous lisant. Il est intéressant d'ailleurs que vous vous attardiez beaucoup sur ses premières impressions, ses premiers bruissements, ses premières émotions de l'enfance, que l'on comprend déterminantes pour vous, ce en quoi vous êtes assez barrésien dans votre propre sensibilité de biographe, c'est-à-dire que vous vous arrêtez sur ce qui a pu édifier. Avant même la conscience, le jeune Barrès. Et il y a notamment, alors effectivement, vous y faisiez allusion, il l'aimait assez tôt, du moins on a l'impression qu'il nourrit assez tôt un projet, faire de sa vie un poème. Donner une forme artistique et une belle forme à sa vie, c'est quelque chose qui vient assez tôt dans son existence.
Oui, faire de sa vie un poème, c'est quelque chose d'essentiel dans ce que lui-même appelle le départ pour la vie. Et ça me touche que vous me disiez que j'ai une sensibilité barrésienne pour parler de Barrès, parce que je crois, ça peut paraître une évidence et un truisme, mais qu'il faut d'abord demander à l'auteur lui-même les clés de lecture de son œuvre. Et parfois, on a tendance à introduire des outils extérieurs qui viennent en réalité totalement fausser ce développement que Barrès, d'ailleurs, dont Barrès parlera plus tard, hein, comme d'une plante, hein, qui va justement se développer, mais avec une part qui n'est pas simplement celle du déterminisme, mais de la volonté. Il y a une très grande volonté chez Barrès.
Cette tension terrible sur laquelle on reviendra, puisqu'on en parle, on peut d'ailleurs s'arrêter sur le style de la biographie pour mieux la recommander aux auditeurs. Ce n'est pas seulement une somme historique, ce n'est pas seulement un travail de recherche, c'est également un travail sur le style. Et vous articulez très bien les deux. Mario Varro, qui sera avec nous dans quelques instants, dira un mot du style de la biographie. Il y a des allers-retours constants entre le style et l'époque. C'est vrai qu'on a un Barrès qui est le Barrès parnassien, on a le Barrès qui est le Barrès dandy décadent, on a le Barrès qui est un Barrès plus sérieux, arrivé à la maturité. Et à chaque étape de sa vie, c'est une étape de l'histoire de France. On a le Paris fin de siècle, on a le Paris boulangiste, on a le Paris de la guerre, et on a un Barrès qui mûrit son style progressivement, et un auteur, Emmanuel Godeau, qui arrive à chaque fois, à chaque étape de sa vie, à chaque étape de la maturation de son style, eh bien, à nous le restituer et à le rendre sensible. Vous avez vraiment une patte, pour le coup, sensible. Notre ami qui sera avec nous a dit qu'on voit que c'est la biographie d'un poète. Simplement, avant d'y revenir, poésie oblige, il y a également des émotions. Barrès reviendra sur son enfance. Il dira, je crois, son grand chagrin. Son grand chagrin de voir en Lorraine l'Allemand arriver. Est-ce que vous vous rappelez de la citation ? Je ne l'ai pas exactement en tête, mais il n'y a pas quelque chose comme le chagrin d'un enfant qui voit arriver.
Oui, alors je n'ai pas la citation exacte, mais c'est un des grands traumas, de toute façon, un des grands traumatismes de Barrès, c'est de voir arriver effectivement les troupes prussiennes. Il dira d'ailleurs une odeur de sueur, une odeur de poudre, une odeur très violente. C'est l'odeur, c'est par l'odeur que l'histoire entre, si je puis dire, la grande histoire entre dans la vie de Barrès. Les parents vont le protéger, en fait. Il n'assistera pas aux exactions de l'occupant. Mais tout de même, à Charmes, il y a des morts, il y a des tués civils. Donc tout cela marque très profondément Barrès.
La critique distingue habituellement deux Barrès. Il y a le Barrès que l'on connaît, qui est le Barrès nationaliste, qui est le Barrès effectivement engagé, qui est le Barrès de déraciné. Et puis il y a le premier Barrès, dit-on en critique. Le Barrès du moi, le Barrès anarchisant, le Barrès décadent. Lorsque Barrès dit qu'il était ému en voyant l'étranger arriver sur son sol et que cette émotion, cette tristesse lui a inspiré le nationalisme, que ce fut sur ses premières émotions françaises, est-on tenu de le prendre au mot ? Deux citations, que d'ailleurs vous reprenez opportunément dans votre ouvrage, semblent contrevenir à cette réécriture a posteriori de Barrès par lui-même. Barrès écrit notamment, c'est sa jeunesse, « Assurément, seul le moi existe. Il n'y a pas de monde étranger à la conscience. » Pourquoi parle-t-il d'enracinement nationaliste ? Pourquoi parle-t-il de ses premières émotions qui seraient des émotions françaises, alors qu'on a un Barrès qui, dans sa jeunesse, on est dans la décennie 1880, affirme la suprématie du moi, et non pas d'un moi, bien sûr, qui est un moi personnel, et pas un moi social ni national. Il écrit aussi « Les morts, ils nous empoisonnent ». Ce sentiment des morts de Lorraine, de la guerre de 70, on voit qu'il n'y est pas forcément très sensible. Il vitupère contre les préjugés qu'on impose à nos enfants dans les écoles et qu'il les empêche de se chercher eux-mêmes. Lui-même, d'ailleurs, semble s'être longtemps cherché, notamment par rapport à cette réécriture a posteriori. Deux questions. Quel était ce premier Barrès qu'on semble voir s'esquisser ? Est-on tenu de le prendre au mot, justement, sur notamment tout ce qu'il a écrit a posteriori concernant les premiers événements de sa vie ?
Là, sur la question des morts, il dit aussi les morts sont bien là où ils sont, hein, laissons-les où ils sont, qu'ils ne reviennent pas nous empoisonner, effectivement. Ça, c'est un... Si vous voulez, de quelle mort parle-t-il ? Là, il ne parle pas des morts, personnelles, il ne parle pas de ce qui deviendra la terre et les morts. Il parle, en l'occurrence, j'allais presque dire des figures de commandeurs que la société produit pour façonner une lecture de l'histoire. Donc ce sont les grands hommes. Ces grands morts, ce sont ceux qui occupent au fond l'espace intellectuel et qui empêchent le libre déploiement d'une pensée. Donc ça, c'est pas les mêmes morts, si je puis dire, que ceux de la terre et des morts. Hein. C'est un autre point. Et donc, ce qu'on appelle le premier Barrès, moi, la formule me gêne parce que l'œuvre de Barrès, l'œuvre personnelle sur lui-même et évidemment l'œuvre littéraire, l'œuvre politique, en fait, c'est le développement d'une même... vous avez parlé tout à l'heure d'enquête pour mon travail, mais il y a une grande quête chez Barrès. Donc, il peut y avoir des étapes, une première formulation. Je prends un exemple. dans Un homme libre, qui raconte justement donc la recherche obstinée d'un moi caché. Finalement, le moi est comme le Deus absconditus. Il est caché en nous-mêmes. Il faut aller le chercher. Le culte du moi est tout sauf un narcissisme. Hein. Il ne s'agit pas de s'auto-célébrer. Il s'agit, comme d'une divinité, d'aller à la recherche de ce moi qui serait au fond une vérité enfouie en soi, la vérité de soi qu'il faut faire exhumer. Et Barrès est très tôt conscient, donc dès Un homme libre, dans Le culte du moi, celui qu'on appellerait le premier Barrès, qu'en fait ce moi, il est nécessairement un instant d'un grand mouvement qui le dépasse, un instant d'une grande poussée de l'être qui va à un moment donné s'incarner dans ce moi, mais qui en réalité est une étape d'un très long développement. Donc cette idée-là, vous la retrouvez en fait à toutes les étapes de la vie de Barrès.
Alors, parlons un peu du culte du moi, justement, pour préciser aux auditeurs et également leur donner quelques conseils de lecture. Nous avons, je crois, une trilogie, trois livres, oui, dont on peut dire un mot.
Alors, Sous l'œil des barbares, premier ouvrage. Alors, c'est l'œuvre d'un jeune homme qui veut montrer, si je puis dire, l'étendue de ses facultés littéraires, de ses capacités littéraires. Donc vous avez du symbolisme, une écriture, on pourrait dire parnassienne ou post-parnassienne, un mélange d'ironie. Enfin, il y a quelque chose de... une attaque, une satire déjà du bonhomme système, donc de Renan. Donc c'est très éclectique, si vous voulez, sous l'œil des barbares. Mais vous avez cette figure, effectivement, de l'antagoniste, le barbare. C'est celui qui va aider, au fond, dans une maïotique, on pourrait dire conflictuelle, faire émerger ce moi. Deuxième étape, Un homme libre. Barrès va considérer toute sa vie que c'est son œuvre centrale. S'il faut lire un livre de Barrès, c'est lui-même qui nous le dit. C'est Un homme libre, où vous avez là un jeune homme et un ami. Le narrateur, c'est un narrateur-personnage avec son ami Simon, là encore, qui partent à la quête d'eux-mêmes dans une sorte d'odyssée intérieure où il entre, là encore, vous avez une parodie ou un détournement des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, vous avez évidemment un fond de ce qu'on appelle à l'époque le bellisme, donc la morale à ce moment-là de Barrès est une morale, on pourrait dire, portative, c'est le bellisme, oui, c'est la chasse au bonheur, mais intellectualisée dans une version cérébralisée des années 1800, de la fin des années 1880. Et puis le dernier volume, Le jardin de Bérénice, qui est déjà une très grande méditation sur le rapport de l'individu à des forces, il les appelle inconscientes, qui sont terriennes et qu'incarne le personnage de Bérénice dans ce jardin où cette femme, ce personnage féminin, va incarner au fond l'être qui laisserait libre cours dans sa vie à ses forces terriennes, sensuelles, charnelles. C'est un personnage utopique, si vous voulez, pour Barrès.
Mais alors, pour rappeler un peu l'ambiance intellectuelle dans ce Paris dans lequel arrive Barrès arrive comme un grand homme de province monté à Paris, il délaisse le droit qu'il faisait pour faire plaisir à papa, comme souvent chez les écrivains. Il arrive en plein Paris et c'est une ambiance intellectuelle très particulière. On a effectivement ces grandes controverses intellectuelles. D'un côté, les vols d'aigle théoriques, les grands systèmes, ce qu'on appelait le positivisme. On a les totems de Renan, les totems de Taine, ceux qui veulent tout expliquer, tout comprendre. Et puis, on a une réaction. On a les fameux fins de siècle, on a ces gens qui affirment un subjectivisme intégral, voire une déréliction. Barrès semble résolument... de ce côté-là. Il est un peu au diapason, il est à la mode, on peut dire, intellectuel. En tout cas, il s'attache à cette mode.
Alors, il arrive à Paris, c'est un Rastignac, si vous voulez. Il y a une dimension, moi je dis toujours bonapartiste, dans cette manière de vouloir conquérir une renommée rapidement. Un masque, pour moi, de dandy, le dandysme de Barrès. Vous parliez de ce personnage fin de siècle qui va très vite se faire connaître par une publication, Les Taches d'encre. Il crée lui-même une revue littéraire. Il écrit dans dans toutes les revues possibles et imaginables. Il se fait connaître par ce mélange à la fois de sensibilité et d'ironie. Nous sommes, n'oublions pas, après Baudelaire, donc on a c'est un personnage tout à fait baudelairien, donc qui sait tenir la dimension, je dirais, plus sensible, une très très grande sensibilité littéraire, et puis le mordant, le côté cassant, la morgue, on pourrait dire aristocratique, mais d'une aristocratie littéraire, et c'est ça le masque de Barrès. Mais ce qu'on ne voit pas toujours, c'est que derrière ce masque, vous avez un travail intérieur considérable.
Et justement,
oui, pardon.
Pour revenir à la réception, le travail intérieur, ce point de vue est fascinant, mais pour en rester à cette posture, Barrès n'est pas très bien reçu. Blanc-Bec de 26 ans, monté de province, je ne sais plus qui parle d'un bréviaire d'égotisme, quelqu'un qui exhibe son moi, qui s'attaque au grand Totem, à Renan, à Thème, alors qu'il n'est rien, qui publie une brochure que l'on juge à l'époque ordurière. Barrès ne commence pas forcément très bien dans le monde, on peut le dire.
Alors, s'il commence très bien dans la mesure où c'est une publicité extraordinaire, si vous voulez, il a connu, il le dira lui-même plus tard, à 25 ans, 26 ans, l'ivresse de déplaire. Et alors, c'est lui-même hein, qui dira ça toute sa vie. Il a gardé cette sorte de, j'allais presque dire, de tendresse rétrospective pour son propre personnage de ses 25 ou 26 ans. Mais il se fait, si vous voulez, bien sûr, il y a quelque chose d'iconoclaste. Dans 8 jours chez Monsieur Renan, il transforme Renan, qui est la grande figure intellectuelle de son temps, comme vous l'avez rappelé avec Taine, il le transforme en une sorte de Monsieur Prud'homme, de bourgeois tel que Flaubert aurait pu le caricaturer à travers
les mesures de la jeunesse.
Voilà. Ça, si vous voulez, c'est la marque propre de Barrès, c'est-à-dire c'est un hommage à Renan. Là où vous dites, il est de l'autre côté de ces grands systèmes, je pense que, si vous voulez, Barrès a cette capacité d'absorber justement la méthode des grands maîtres. En fait, il est très ténien et très renanien dans sa manière de faire sienne les méthodes de ces grands hommes, mais pour les infléchir, évidemment, dans le sens de son propre projet.
Alors, effectivement, Barrès aurait peut-être pu rester ce dandy provocateur qui exagère, et on comprend la nécessité qu'il avait d'exagérer, puisqu'une morale un peu surplombante, un système philosophique très corseté s'imposait à la jeunesse. Et donc, alors que cette jeunesse bouillait, justement, son énergie, comme celle des romantiques, était sans emploi. Et donc, forcément, Barrès réagit. Mais on comprend en vous lisant qu'il ne fait pas que réagir. Il y a déjà autre chose chez Barrès, il y a un déclic. Ce ne sera pas l'écrivain, le pamphlétaire d'égout, le dandy, le réactionnaire de charme. Ce ne sera pas l'anarchiste provocateur. Il a déjà une distance par rapport à lui-même et déjà une très grande maturité de ce point de vue.
Oui, une très grande maturité parce qu'il propose à ses contemporains et en particulier à la jeunesse. Ce qui frappe Barrès, c'est qu'on ne donne pas à la jeunesse l'aliment spirituel et intellectuel et littéraire dont elle a besoin pour se former. Et donc, il remplit cette fonction. Dominique de Scherff rappelait cette formule. Barrès est devenu a été reconnu par ses lecteurs comme le prince de la jeunesse, précisément parce qu'il leur offre à la fois une morale personnelle et une morale collective, pour justement qu'ils ne soient pas façonnés par l'esprit du temps. Il leur offre, si vous voulez, des outils de résistance au conformisme. Avec d'ailleurs des horizons, il n'y a pas que l'ironie, il y a dès le culte du moi, dès un homme libre, et encore plus avec le jardin de Bérénice, il y a un véritable projet, c'est-à-dire de retrouver au fond un moteur existentiel qui ne soit pas simplement celui d'une raison désenchantée.
Et puis il y a un style. Je crois. Vous écrivez que déjà, les thèmes peuvent paraître ordinaires, c'est vrai. La réaction au positivisme, la réaction au grand système, tout ça était peut-être dans l'air du temps. Mais ce qui distingue Barrès, c'est, vous l'écrivez, une voix différente, quelque chose de jamais vu auparavant, une modernité poétique.
Oui, une modernité poétique. On a beaucoup de témoignages d'ailleurs. Hein. Maurras dira que le grand choc de sa jeunesse, c'est d'avoir lu précisément Un homme libre et d'avoir découvert ce style-là. Léon Blum dira que jamais dans l'histoire de la littérature française n'est apparu un personnage aussi, un écrivain aussi inattendu. Et le style de Barrès, ben c'est celui que je décrivais tout à l'heure, c'est le Tirse baudelairien, si vous voulez. C'est dans ce poème en prose de Baudelaire, le Tirse, où vous avez une ligne directrice qui est assez sèche. Il emprunte à Stendhal une prose qui peut être sèche dans une sorte de basse, on pourrait presque dire continue, qui est assez cassante, avec des ironies, avec des effets de cadence mineure. Et il arrive à articuler ça avec un lyrisme qui n'est pas desservi par cette ironie. Il arrive à articuler, si vous voulez, quelque chose qui serait une forme de chant lyrique à un regard analytique plus froid. C'est une variation, en réalité, sur le style baudelairien.
Mario Varro, vous êtes avec nous ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, cher ami. Vous intervenez régulièrement à Radio Courtoisie, désormais les auditeurs vous connaissent. Vous avez lu avec intérêt la biographie d'Emmanuel Godot. Avant d'évoquer cette expérience de lecteur qui vous a marqué, vous vouliez dire quelques mots, je crois, sur la modernité du style de Maurice Barrès.
Oui, en effet, je voulais évoquer des textes peut-être un peu moins connus de Barrès, alors qu'on connaît de nom, notamment, oui, je voulais évoquer sa modernité esthétique, sa modernité de critique d'art, pour présenter un peu une autre image du Barrès qu'on peut réduire parfois, pour le grand public à un nationalisme étriqué, etc., etc. Je voulais revenir sur ce texte qui est le secret de Tolède, qui est consacré au Gréco et qui anticipe en fait quelque part ce qui sera le jugement que l'histoire de l'art portera sur le Gréco un peu plus tard dans le XXe siècle. Le Secret de Tolède, c'est un livre qui est publié au début des années 1910 et c'est un livre qui est le souvenir donc d'un voyage à Tolède de Barrès. Et Barrès évoque un tableau en particulier au début de ce livre qui s'intitule « L'enterrement du comte d'Orgaz ». Il nous dit que c'est un chef-d'œuvre d'un sentiment à la fois arabe et catholique. Donc déjà, à travers cette citation, on peut dire que pour un nationaliste étriqué, c'est une citation un peu surprenante. Au début de ce livre, Barrès se livre à ce qu'on appelle en rhétorique une ekphrasis, c'est-à-dire la description d'une œuvre d'art, dont l'exemple le plus célèbre est la description du bouclier d'Achille par Homère dans l'Iliade. Et il nous fait donc revivre les personnages de cette Espagne du 15e et du début du 17e siècle. Et ce qu'il faut voir dans ce livre, dans lequel on retrouve cette plume absolument admirable de Barrès, c'est que, je l'ai dit, le Gréco était un peintre assez oublié à l'époque de Barrès, au début du XXe siècle. On a du mal à l'imaginer à notre époque, tant le Gréco a été redécouvert et puis est maintenant magnifié comme un des plus grands peintres espagnols, évidemment. Et donc à cette époque, il était assez mal considéré, car vu comme non académique. Il y a, je crois, et d'ailleurs Emmanuel Godot le rappelle dans sa biographie, peut-être Théophile Gautier, je crois, qui avait fait un premier éloge du Gréco, mais Barrès y revient donc dans ce livre. Et pour moi, il devance ici la critique d'art, ce que sera l'évolution de l'histoire de l'art par la suite. Et on voit là toute la modernité esthétique de Barrès. Il voit dans le Gréco un génie discordant. Un génie discordant où l'on retrouve donc cette alchimie des contraires qui est très chère à Barrès, et une tension entre ce que Barrès appelle le Gréco réaliste et le Gréco visionnaire. Et Barrès d'ajouter que finalement le rôle ou la voix, VOIE, du Gréco, c'était à travers ses tableaux, ses créations, d'exprimer d'une manière réaliste les spasmes de l'âme. Donc voilà, c'est un texte dont j'encourage les auditeurs de Radio Courtoisie à redécouvrir, parce que il nous montre un autre Barrès qui n'est pas celui forcément du grand public qu'on connaît mal, mais que heureusement la biographie d'Emmanuel Godot nous permet de mieux de découvrir, de redécouvrir. L'autre modernité, ou plutôt l'autre Barrès que je voulais aussi évoquer, c'est à travers un texte.
Alors, je crois que vous anticipez sur la suite de l'émission, si vous voulez parler des grandes familles spirituelles de la France.
Exactement.
Mais vous restez avec nous. Monsieur Sandoram, vous avez également quelques évocations, portraits picturaux de Barrès, pour rester dans ce thème, qui également vous vouliez nous lire à l'antenne.
Oui, en effet, oui, si la plupart des Français connaissent l'impératrice Élisabeth d'Autriche et Louis II de Bavière grâce à des films qui ont eu beaucoup de succès dans les années 50, 60 et 1970, les milieux cultivés en avaient une approche vraiment très, très intéressante grâce à Barrès dans son ouvrage L'ennemi des lois, paru en 1893, 2 ans après son voyage de noces en Bavière, justement. Il avait épousé Paul Couche, bon, qui était une jeune femme cultivée qui avait suivi des cours à l'université, qui était une femme d'une certaine beauté, d'une certaine élégance, bon, que certains milieux parisiens avaient assez méchamment surnommé la Gréfulle du pauvre, mais c'était, je crois, par jalousie plus qu'autre chose. Et donc, dans ce roman, donc, il s'inspire de son expérience personnelle, donc il nous livre un portrait du roi. Il y a en Bavière beaucoup de Louis II. Ce jeune homme tenait tous ses éléments romanesques de ce sol et de cette race. Et c'est pourquoi si vite sa légende se mêla aux aspects principaux du pays, comme son image en décor, les auberges et les salons. Là, il fait allusion à la popularité du roi même après sa mort. Enfin, s'il est devenu populaire auprès de certains esprits dans le monde entier, c'est qu'avec les différences du temps et de race, des tempéraments analogues apparaissent à toutes les époques et dans tous les pays. Louis II, jeune bavarois doux et grave, ne voyait rien sous l'aspect de frivolité. Avec son beau regard de rêve, son expression amoureuse du silence et cet ensemble idéal d'étudiants assidus aux sociétés de musique, c'était un de ces êtres qui n'ont aucune faculté de domination, mais trouvent une force invincible de résistance dans la fuite, dans l'horreur instinctive que leur inspirent tous, hors l'être, homme ou femme, élus pour posséder leur âme. En eux, l'humanité a mis sa plus profonde et mystérieuse sensibilité, et leur âme, éparpillée à toute la nature par la musique, est pénétrée d'une volupté comme d'une possession physique intense qui seule y fait l'unité. Aussi n'est-il pas singulier qu'à 15 ans, ayant entendu Lohengrin, le prince héritier de Bavière, ait élu Wagner comme son domaine. Donc il réussit à résumer dans un style très poétique donc la personnalité du roi, ce qui est très, très intéressant et novateur, évidemment, pour cette époque. Il évoque aussi tous les châteaux de Louis II. Il dit bon, le nom du roi désormais lié à ces châteaux qu'il bâtit dans les plus beaux sites de son royaume. Il figeait là les fumées de son imagination. Hohenschwanger, Neuschwanstein, Linderhof, Chiemsee, Berg peuvent être tenus pour des chapitres divers de l'éthique de Louis II. Il renseigne sur ce roi comme un cloître de Chartreux révèle la pensée intime de Saint Bruno et un couvent de Carmélite, le brûlant secret de Thérèse d'Avila. Plus loin aussi, il indique, tout ce qui reste de Louis II, c'est en nombre incroyable des images du signe de Lohengrin, mais approprié, abaissé à tous les usages domestiques. Signe de faïence épars sur les meubles où il porte des fleurs, des bonbons, et qui deviennent jets d'eau sous les fenêtres dans un gracieux parterre analogue à ceux d'Auteuil. Le bel oiseau n'est plus que sur le Wannsee qui fait le fond du haut cirque des montagnes boisées où s'accroche le château. Et quant à l'impératrice, donc Élisabeth d'Autriche, bon, il évoque les souvenirs de son lecteur d'origine grecque et il se livre à quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'un simple commentaire d'un ouvrage. Bon, il plaque sa propre sensibilité sur celle de l'impératrice. Du point de vue où nous nous plaçons, nous devons bénir les souffrances d'Élisabeth de Bavière. La jeune impératrice émerveillait ses peuples et la haute société européenne, mais quel que fût le romanesque de sa première beauté, on préférera celle que lui firent les meurtrissures de la vie. L'impératrice Eugénie l'a copiée, qui donc pourrait nier ce qu'ajoutèrent des larmes de sang et les stigmates de la vie à leur charme de déesse. acceptons une part de mystère. Sur un fond d'horreur sacrée s'accentue d'autant mieux la figure de l'impératrice. Nous prendrons ici Élisabeth d'Autriche comme une excitatrice de notre imagination, comme une nourriture poétique et une hostie de beauté. Elle peut faire un des refuges, un des sommets de notre rêverie.
On a un Barrès qui a des goûts, on pourrait dire, avant-gardistes aujourd'hui, et qui parvient, par son travail de critique, à avoir une approche... Disons, assujectiver le monde qui l'entoure en quelque sorte. Barrès, c'est le contraire évidemment d'un abruti, c'est quelqu'un qui s'analyse beaucoup. Et son culte du moi s'intègre dans cette démarche d'introspection. On est aussi à un moment où on s'intéresse aux actes de la conscience. Qu'est-ce que c'est que penser? Qu'est-ce que c'est qu'être ému, etc. Enfin, chose qui, évidemment... trouveront leur déploiement au XXe siècle avec la phénoménologie, avec toute la littérature psychanalytique, etc. On voit que Barrès anticipe un peu cette évolution. Il est là où on ne l'attend pas. Il est là sur le moi, sur le sujet. Il n'est pas encore là sur l'objet, à savoir la nation, à savoir la Lorraine, à savoir des choses qui sont extérieures à nous-mêmes mais qu'on pose en absolu. Barrès ne pose pas des choses extérieures à lui-même en absolu, mais il se pose lui-même en absolu. Et il remonte ce fil du moi, en quelque sorte. Sauf que, en remontant ce fil du moi, poursuivant sa démarche d'introspection, eh bien, il tombe sur autre chose que le moi et le moi-même. Et ce quelque chose, c'est ce dont vous parlez, Emmanuel Godeau. C'est-à-dire qu'en remontant dans l'intimité psychique de Barrès, vous dites bien que le moi ne suffit plus. Qu'en s'analysant et en expliquant ce qu'est être sensible, ce qu'est pleurer, ce qu'est être ému, on atteint autre chose que le soi-même. Et peut-être que c'est cette autre chose dont vous allez nous parler, justement. Je crois que c'est là où intervient, justement, ce qu'on appelle un peu, effectivement, rapidement, le second Barrès. Au terme de cette introspection, on tombe sur la Lorraine, on tombe sur l'origine, on tombe sur l'éducation, on tombe sur la langue, on tombe sur la nation.
Oui, mais c'est déjà en jeu, en réalité, parce qu'on voit très bien, là, dans le rapport à Sissi, le rapport à Louis II de Bavière, que ce terme d'excitateur, ce sont des êtres, en réalité, qui, si vous voulez, vont rejoindre le moi dans sa quête profonde. Donc, y a une forme de... Déjà, chez ces êtres-là, qui permet à Barrès de comprendre que ce qu'il cherche, ce que cherche ce moi, est plus large que lui et n'est pas l'universel. C'est autre chose. C'est de l'ordre de l'inconscient, précisément. C'est un lecteur d'Hartmann, c'est un lecteur, effectivement, il est très marqué par la pensée de Schopenhauer, comme toute son époque. Et ces êtres-là sont à l'extérieur, en fait, comme des marqueurs d'une recherche qui est exactement celle que l'individu fait en lui-même. C'est pour ça qu'on a, si vous voulez, l'acheminement vers la Lorraine va se faire dans un homme libre. Vous avez une première enquête où le jeune homme se rend compte que la Lorraine est morte, comme il dit. Il n'a pas encore conscience parce qu'il n'est pas ému en profondeur par la Lorraine et par l'histoire de la Lorraine. Il va falloir des traumatismes qui sont ceux d'une époque, qui sont ceux d'une société, qui sont ceux aussi d'un homme dans un parcours de vie, c'est-à-dire la mort du père, la mort de la mère, qui sont des relais très importants parce que tout à coup, la Lorraine se met progressivement à exister en profondeur. C'est là où sont les tombeaux. C'est le lieu où sont les morts, tout simplement, les morts aimés.
Le culte des morts n'est pas une passion idéologique, ce que vous écrivez dans votre biographie. Le culte des morts, c'est d'abord le culte des morts. C'est d'abord l'honneur rendu à sa famille. C'est d'abord une émotion personnelle.
C'est une émotion personnelle, d'abord, exactement. Et Barrès, si vous voulez, le grand mot barrésien, en fait, pour définir le nationalisme, c'est la biographie. C'est une histoire personnelle, le rapport que l'on tisse avec des paysages, avec un lieu. Ça n'a rien à voir avec un déterminisme biologique, contrairement à ce que peuvent laisser penser quelques formules prises, isolées, si vous voulez, d'un combat politique. On peut trouver des formules qui sentent le biologisme, mais en réalité, le fond chez Barrès, du lien, c'est celui qui unit un être à un paysage, de naissance. Le premier lieu barrésien, justement, lui-même a fait l'épreuve du déracinement. Il choisit Venise, c'est une ville d'élection, comme premier lieu de sa géographie intérieure. Parce que c'est le lieu à 20 ans qui correspond à sa propre conscience, c'est-à-dire d'être finalement une sorte d'îlot, d'île, qui est en train d'émerger d'une lagune, d'un néant. Il faudra du temps pour qu'il comprenne que ce qu'il cherchait à Venise, en fait, était un leurre. Et que ce rapport intime, on ne peut pas le décréter. On ne devient pas citoyen de Venise, en réalité. Ce qu'on apporte à Venise, c'est son désenchantement, c'est son désir de beauté, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une mélancolie. Et Barrès va comprendre progressivement, c'est une longue histoire et effectivement une histoire personnelle, que c'est dans ce petit territoire, dont il dira d'ailleurs qu'il a beaucoup moins de charme, il a beaucoup moins d'attrait que évidemment les grandes villes d'Orient, que cette Espagne dont on parlait avec Tolède, la Tolède de Gréco ou d'autres lieux encore, c'est moins enchanteur, mais c'est là que se trouvent au fond les énergies profondes de l'être. Et ce qu'il cherchait à Venise, ce qu'il cherchait en Orient, c'est en réalité dans la Lorraine, dans ce qu'il appelle sa discipline lorraine. Il insiste sur ce mot de discipline parce que on a l'impression que c'est plus étroit, on a l'impression que c'est plus, on pourrait presque dire plus sec, mais au fond, c'est là que se trouve sa vérité profonde.
Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
On comprend en lisant Barrès que chaque homme a besoin d'histoire, chaque homme a besoin d'image, on a besoin d'une histoire familiale, on a besoin d'une histoire régionale, on a besoin d'une histoire nationale, on parle bien de récit, on parle bien d'un enracinement spirituel. Vous parlez, je crois, la construction est oxymorique, il construit un palais lucide, c'est-à-dire que ce sont à la fois des choses réelles, mais des choses que l'on interprète, des choses que l'on poétise. Et par rapport à un débat plus contemporain, on reproche souvent au fameux roman national d'être un roman, finalement, et de déroger à l'exactitude scientifique, celle du fait soigneusement établi. On retombe sur Taine et Renan. Je pense que Barrès assumait cette partialité. Barrès assumait cet effort de la subjectivité qui était de faire une Lorraine à lui, de faire une histoire, une France à lui qu'il habiterait spirituellement.
Oui, parce que le grand drame pour Barrès, qui n'est pas un drame personnel, qui est le drame de son temps, et qui probablement d'ailleurs est encore le nôtre. Barrès diagnostique, si vous voulez, que la société de son temps, c'est une sorte de construction, ce qu'on appelle la France, cette Troisième République qui est en train de se constituer, c'est une armature juridique, mais vide. Et elle est construite sur des grandes abstractions, donc des grands principes, mais qui, s'ils peuvent, j'allais dire, organiser une cité, ne permettent pas de mobiliser les énergies profondes des individus. On ne peut pas s'enthousiasmer, dit Barrès, pour des abstractions. On ne peut pas s'enthousiasmer pour des idéaux qui viendraient, dit-il, du haut, c'est-à-dire qui sont des produits d'une raison déracinée, sans attache profonde. Et donc, effectivement, Barrès va être toute sa vie à la recherche de médiation. Alors, il va les trouver, effectivement, dans des figures historiques, mais qui sont fascinantes. On a parlé, et qu'importe d'ailleurs d'où qu'elles viennent. Là, nous avons bien vu avec Louis II de Bavière que la tâche nationale de Louis II importe peu. Il y a une fraternité pour ce personnage-là, une admiration pour ce personnage. Toute l'œuvre politique, philosophique, personnelle, littéraire de Barrès va consister à proposer à ses contemporains aimantations, si vous voulez, des objets d'aimantation. Alors ça peut être des individus, ce qu'il appellera dans son vocabulaire des intercesseurs. Nous avons besoin d'intercesseurs, c'est-à-dire de héros, nous avons besoin de grandes figures, nous avons besoin de grands hommes, nous avons besoin de grands écrivains. C'est pour ça qu'il incarne, en un certain sens, l'enchanteur de la langue française. Il assume cette fonction, si vous voulez, d'attirer à son œuvre, mais non pas dans une volonté de captation, mais dans une volonté de faire venir à la collectivité, par son propre truchement, par sa propre médiation, des individus qui se cherchent. Sa construction de la France, c'est la même chose. C'est la France des provinces, c'est la France des régions, c'est une France décentralisée. Il est très proche de Mistral, évidemment, le Félibrige. Il est très proche d'autres chercheurs qui sont passés par, justement, la réhabilitation de ce que Maurras appelle ses provinces. Ces grandes provinces d'Ancien Régime,
ces petites patries
oui, qui étaient des médiations absolument nécessaires pour la construction. Barrès, on l'oublie par exemple, dans les années 1890, influencé en partie par Maurras, mais pas simplement, s'est intéressé notamment au fédéralisme, il s'est intéressé à la libre association, il s'est intéressé aux expériences communales, par exemple en Suisse, parce que ce qui l'intéresse en réalité... Et le fameux ennemi des lois dont vous avez lu un des extraits absolument magnifiques, on se demande toujours, mais pourquoi ce Barrès anarchisant? Qu'est-ce que ça veut dire, l'ennemi des lois? Ben, oui, il rêve en fait d'une société, d'un État dans lequel on pourrait se passer des lois, au sens juridique, rationnel du terme, et que dans lesquelles, si vous voulez, l'organisation se ferait, on pourrait presque dire spontanément, par une sorte d'adhésion de l'individu, à des petites entités qui seraient l'association, qui seraient la commune, qui seraient la région. Alors, c'est peut-être une utopie, hein, je ne dis pas, mais c'est ça, c'est... Tout ça pour dire que ce Barrès de l'ennemi des lois, en fait, c'est parfaitement cohérent par rapport à sa recherche. C'est pas du tout une parenthèse anarchique dans sa recherche politique. C'est un moment nécessaire, si vous voulez, pour mettre en question le rapport que l'individu entretient à la collectivité dans ces grands États modernes qui sont construits sur une architecture juridique. Et ça ne peut pas fonctionner.
Oui, les normes seraient suffisamment intériorisées, peut-on dire inconscientes, pour qu'elles se passent d'être écrites.
Exactement. Oui. D'où le jardin de Bérénice, d'où cette rêverie sur l'inconscient, en fait, parce qu'il a quelque chose, justement, qui permet de galvaniser les énergies profondes et de faire participer l'individu
au projet collectif. Sans vouloir gonfler nos unités, entre guillemets, avec de la théorie, on est plutôt sur l'inconscient jungien que freudien, j'imagine.
Oh, ni l'un ni l'autre, pardon, mais c'est hartmannien, parce que Barrès est là, il n'a pas lu, évidemment, il est lecteur d'Hartmann, hein, donc c'est la philosophie de l'inconscient d'Hartmann, donc on est plus proche d'un Schopenhauer, mais si vous voulez, n'oublions jamais que Barrès, c'est fondamentalement un écrivain, et oui, c'est quelqu'un qui est très... c'est ce que moi, j'aime bien rappeler que c'est un dilettante, hein, mais au sens de la fin du 19e siècle.
Les écrivains peuvent aimer les idées aussi.
Voilà, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui respire les systèmes philosophiques, c'est pas du tout un systématique, c'est pas du tout un dogmatique. D'ailleurs, même dans son nationalisme, quand on réfléchit sur le nationalisme barésien, qu'est-ce qu'on trouve? Il n'y a pas vraiment de théorie chez Barrès. Vous avez scènes et doctrines du nationalisme, c'est-à-dire une succession de textes, de circonstances.
Alors, avant de revenir sur la carrière politique de Barrès, ce que vous décrivez, c'est-à-dire le malaise dans lequel se trouve Barrès, dans une Troisième République qui n'est finalement qu'une construction juridique, qui ne connaît que l'intellect, qui ne donne pas cette chair finalement, eh bien, il y a un roman, je crois, qui résume le malaise non seulement de Maurice Barrès, mais également celui de toute une génération, ce sont bien sûr Les Déracinés. On peut, peut-être pouvez-vous d'ailleurs le résumer, on a 7 jeunes Lorrains, un enseignant et une phrase qui parle de jeunes sauvages serrés sur leur banc. Il l'écoute, l'observe un peu méfiant, le guette et s'apprivoise par l'admiration. On a un prof, figure tutélaire. On a également 7 jeunes gens. Puis on a un Barrès qui arrive et qui est un peu critique, je crois, si on veut parler des Déracinés.
Oui, parce que... Alors, critique, observateur, c'est quelqu'un...
Qui sont ces jeunes gens, déjà? On a Saint-Flin, Sturel...
On a Sturel, Römer-Specher, Racado, Mouchefrin, etc. Donc,
ça mérite qu'on s'y attarde, puisqu'on a des portraits qui sont assez...
On a des portraits de Lorrains qui ont chacun l'un du barrois. On a vraiment un travail
sociale.
Très précis sur ces 7 personnalités. Différents milieux sociaux, il y a ceux qui vont peut-être pâtir attire encore plus, car ils partent avec une, on pourrait dire, un déficit et culturel et social qui va leur être fatal.
Et ils sont au lycée.
Et ils se retrouvent, ils sont au lycée de Nancy, ils ont un professeur qui s'appelle Bouteiller dans
professeur
le roman.
Professeur de philosophie.
Professeur de philosophie, qui en réalité est une transcription fictive, mais c'est le personnage de Burdeau, qui a été un professeur très important, que Claudel a eu d'ailleurs dans sa vie, que Barrès a connu aussi. Et Bouteiller va incarner dans le roman, justement... alors, dans le roman, c'est un néo-kantisme, donc c'est une philosophie rationnelle, abstraite, qui a pour effet de projeter ces jeunes Lorrains dans une vision désincarnée du monde. Et c'est ça, le déracinement. Il y a le déracinement qui consiste à faire passer ces Lorrains à Paris, mais le déracinement véritable... c'est le fait de les avoir privés de leur boussole intérieure. Cette boussole intérieure, c'était d'être des Lorrains, des provinciaux. Barrès, toute sa vie, restera un homme de la province, parce que, de l'instinct, de la terre, de ses premières attaches. Et il décrit dans Les Déracinés... Alors, il y a beaucoup, je ne vais pas raconter tout le roman qui est très, très touffu... ce que je dirais à nos auditeurs, c'est que on réduit le plus souvent Les Déracinés à ce qu'on appelle un roman à thèse. On aurait une démonstration de la validité.
Il y a des rappels fréquents quand même. Thèse. Il y a des rappels fréquents de ce que pense Barrès.
Il y a des rappels, on sait très bien. Il y a une orientation. C'est un auteur qui nous dit.
Oui.
Il y a un cap.
Je ne me trompe pas.
Qui est rappelé. Oui. Est-ce que c'est une thèse pour autant? C'est une thèse, si vous voulez, au même titre que dans la Divine Comédie de Dante, il y a une thèse. Ou lorsque Balzac nous dit que la comédie humaine est écrite à la lumière de deux flambeaux, la monarchie et la religion. Donc il y a la littérature à thèse, la thèse n'est pas forcément l'ennemi de la littérature. Parfois, dans la vision un petit peu moderniste des choses, on va dire, un roman qui a une ligne directrice, ça devient de l'idéologie. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, Barrès décrit dans ce roman, pour moi, c'est un des premiers... Aragon dira, par exemple, que c'est le premier grand roman politique de l'histoire de la littérature française. Parce que c'est un roman qui est très bien documenté, comme d'ailleurs la trilogie de l'énergie nationale avec l'appel aux soldats et leurs figures. Ce sont des romans très documentés. Post-balzacien, il dit, la formule du roman balzacien est terminée, il faut aller vers plus de, en fait, d'exactitude. C'est là qu'on retrouve l'objectivité que vous évoquiez tout à l'heure dans l'utilisation d'un matériau extrêmement précis. Par exemple, quand il décrit le prolétariat des bacheliers. Barrès est très attentif, en fait, à la misère sociale de la jeunesse et aux conditions matérielles d'existence de la jeunesse. Et dans Les Déracinés, vous avez un état des lieux, mais très précis, de ce que veut dire être étudiant à Paris dans les années 1880, au milieu des années 1880.
Pourquoi ce n'est pas un roman balzacien? Parce que Barrès dit, bon, Balzac a un peu vieilli, je vais faire autre chose. Qu'est-ce
oui,
qui fait
ça.
Que ce roman n'est pas un roman balzacien, ça?
Si vous voulez, il n'est pas balzacien dans le sens où il invente une formule qui sera beaucoup plus proche du roman documentaire tel que les Américains vont
oui.
le pratiquer
oui.
et auquel on va leur accorder la paternité. Si vous voulez, quand on parle de Dos Passos, quand on parle de ces grands romans dans lesquels vous avez catalogue, vous avez des coupures de presse, etc. Mais si vous regardez bien Les Déracinés et si vous regardez bien la trilogie de l'énergie nationale, le roman de l'énergie nationale, Barrès pratique déjà ça. C'est en cela que Balzac, la formule balzacienne est dépassée. La formule du roman, hein, c'est pas du tout une critique sur Balzac.
Incroyable, ce que vous dites effectivement est très vrai, mais je n'ai pas aperçu que Barrès anticipe presque le nouveau journalisme
oui.
à l'américaine.
Oui, oui tout à fait.
Une jonction. Alors, nous quittons du coup un peu les vertiges de la littérature et de la pensée barrésienne pour revenir à ce que fut également Barrès, c'est-à-dire, je mets bien sûr tous les guillemets et j'emploie toutes les précautions sémantiques possibles et inimaginables, un homme politique. On se demande même parfois ce qu'il a pu bien aller faire dans cette galère. Il choisit un courant politique qui n'est pas exactement un courant vertigineux, ni somptueux, ni délicat. Il choisit au contraire le populisme le plus vitupérant, le plus postillonnant de la République. Il commence comme boulangiste. Alors on peut rappeler rapidement ce qu'est le boulangisme, sauf si l'historien, cher ami qui est avec nous, souhaite le faire à ma place. C'est une espèce de poussée de fièvre.
Qui a touché tous les milieux, la gauche, la droite, les royalistes, les républicains. Donc c'était
une grande confusion politique qui se fixe sur un personnage.
Oui, il était ministre de la guerre, le général Boulanger, surtout populaire parce qu'il avait créé des guérites pour les soldats qui montaient la garde. Bon, il avait été blessé, il était courageux, mais comme des centaines, voire des milliers d'officiers, il n'avait rien de particulièrement transcendant. Donc, aujourd'hui, on a peine à croire. Bon, il avait été élu triomphalement député de Paris, mais bon, le gouvernement l'avait nommé gouverneur militaire à Clermont-Ferrand. La foule s'était couchée sur les rails du chemin de fer pour l'empêcher de partir, mais il était parti, donc il n'a rien fait de sa victoire. La duchesse d'Uzès, royaliste, avait dépensé des millions de francs or pour sa cause.
Oui, c'est ça. On a un personnage qui est un écran à fantasmes, qui n'est pas grand-chose. On a un fourre-tout politique.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que des royalistes le financent parce qu'ils
et
espèrent.
Et les milieux populaires de gauche aussi, c'est très, très, très.
Et on a un programme qui est le vide politique abyssal.
Bah oui, lui-même n'avait pas d'idée particulière. Et puis à la fin, bon, il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse.
Marguerite de Bonnemain.
Voilà, oui. Alors Georges Clemenceau a eu ici Gilles, général Boulanger, qui mourut comme il avait vécu en sous-lieu.
Non. Alors qu'est-ce qu'est allé faire Maurice Barrès dans cette galère ?
Il est allé chercher justement l'odeur de la politique, exactement ce que vous avez décrit, les vituperations, les postillons, la sueur des réunions publiques. C'est ça qu'il va chercher en fait, en jeune, dans un premier temps, dandy intellectuel si l'on veut, mais plus sérieusement si vous voulez, il ne va pas simplement chercher... Il va chercher l'étonnement, c'est-à-dire il va être élu plus jeune député de l'Assemblée. À un moment d'ailleurs où le boulangisme est déjà en perte de vitesse, il fait partie des 40, la quarantaine en fait de boulangistes perdus. Élus. Quoi. Oui. Alors non, il va chercher le peuple. Ah, tout simplement. Barrès veut, si vous voulez, il va dans la troisième circonscription de Nancy, milieu ouvrier. Il va chercher ce que Maurras.
Il est élu, je crois.
Il est élu. Oui. Il est élu. Et Maurras dira d'ailleurs, pour décrire ce que Barrès est allé chercher en politique, parce que c'est la grande question, elle est parfaitement pertinente, bien sûr. Maurras dira, il cite un vers de Vigny, « La vie est double dans les flammes ». Donc les flammes, le combat politique, et Dieu sait si c'est âpre, hein, on fait le coup de poing, Barrès est jeté dans une mare à un moment donné par des adversaires, on tire au revolver.
C'est amusant parce que le milieu royaliste de Nancy, dont se moque beaucoup Stendhal dans Lucien Levenne, appelle à voter pour lui, je crois.
Oui, c'est ça. Et donc Barrès va chercher ça, si vous voulez, il va chercher l'odeur de la reine, de la reine publique.
Mais il a à la fois les ouvriers et également ce milieu très fermé, très snob, voilà. Oui. Il arrive à l'Assemblée, le souffle est un peu retombé, effectivement. Je crois qu'il, j'interroge le biographe, qu'il tire quelque chose pour sa matière littéraire de ses fréquentations à l'Assemblée, de ce marigot politique très corrompu qui est celui de la République.
Oui, il va écrire une pièce de théâtre, une journée parlementaire.
Qu'il jauge les âmes à l'Assemblée.
Alors, qu'il y a derrière cette mystérieuse... Oui, il est observateur. C'est un terrain d'observation de plus. Lui qui connaît très bien les milieux du journalisme, les milieux littéraires, il complète, effectivement. Mais je crois plus profondément qu'il entre, si vous voulez, dans ce Parlement. Barrès sera toute sa vie un anti-parlementaire, mais paradoxal, puisqu'il sera réélu député. Il va souffrir de ne plus l'être, d'ailleurs, pendant des années. C'est quelqu'un qui... au sein même de l'Assemblée, va chercher dans ce lieu où l'on légifère, il va essayer d'être une sorte de contrepoint, si vous voulez, à ce qu'on appelait tout à l'heure l'architecture juridique vide. Il est dans le lieu même, si vous voulez, de cette...
Il n'est pas très actif, je crois. Cette mention soit législature.
Oui, au début, mais quand même.
Il était député du quartier des Halles, je crois. Là.
Alors, il va l'être...
Il siégeait, je crois, à l'extrême gauche.
Extrême gauche, au départ.
Alors, il y a un moment qui est un révélateur. Peut-être M. Santorum peut nous faire très rapide topo, c'est l'affaire Panama.
Ah oui, qui a eu un retentissement extraordinaire. On s'est rendu compte que quantité de députés de toutes tendances étaient achetés pour inciter les braves épargnants à verser leurs économies dans la compagnie de la construction du canal de Panama, bon, que Ferdinand Lesseps, bon, qui avait fait fortune évidemment avec le canal de Suez, donc avait lancé. Puis ensuite, ça a été un fiasco. Le terrain était spongieux. On n'arrivait absolument pas à endiguer les cours d'eau, la terre. Donc tout ça s'est terminé en catastrophe. Des milliers de personnes ont été complètement ruinées.
Et pourquoi ça a éclaboussé le personnel politique ?
Ben parce que beaucoup de députés étaient achetés par la compagnie pour inciter les gens à donner leurs économies, alors qu'on savait déjà que ça battait de l'aile. Alors,
comment réagit Barrès à cette affaire ?
Bah, c'est la confirmation pour lui que le personnel politique est corrompu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ça le confirme, si vous voulez, dans son diagnostic. Il en parle d'ailleurs, c'est l'objet même de leur figure. C'est l'observation de cette
déroute. Il y a l'affaire Panama, il y a l'affaire du Crédit Général, je crois, de la faillite. Oui. Et c'est le début d'une autre histoire, pour le coup, plus ténébreuse, plus obscure, et à laquelle Barrès va se joindre.
L'affaire Dreyfus, vous voulez dire ?
Disons en tout cas les prémices de l'antisémitisme, en tout cas.
Oui, oui.
Et je crois que Barrès, dès le début, affiche, dès l'affaire de Panama, un positionnement.
Bah, vous avez des... Oui, parce qu'il y a parmi les, évidemment, les personnages les plus troubles dans cette affaire, vous avez un banquier juif, vous avez un homme d'affaires juif, et donc évidemment, ça vient confirmer pour Barrès son diagnostic qui avait été échafaudé dans les premiers combats politiques, qui assimile la finance juive à précisément...
Le mot d'ordre, dérive, c'est « abat Rothschild, abat les Juifs ».
Voilà, ça c'est, ouais. C'est ce qu'on entend dans les... c'est ce que Barrès entend dans ses premières réunions électorales.
Et le socialisme fait à l'époque, pas tous les socialismes, en tout cas, un certain socialisme fait cause commune avec l'antisémitisme.
Oui, bien sûr, c'est l'antisémitisme qui est hérité de Proudhon, Toussnel, le disciple de Fourier, c'est celui que vous trouvez chez Gustave Tridon, c'est celui d'ailleurs qui est très largement entretenu encore dans la revue socialiste pendant des années.
Et dont on peut penser, au vu de l'actualité, qu'il n'a pas totalement d'ailleurs disparu.
Et on peut se demander si régulièrement il ne revient pas à la surface dans certaines familles politiques qui n'ont pas toujours fait leur aggiornamento.
Alors, le Barrès, sur lequel on a un gros dossier, le Barrès qui était du coup du mauvais côté, des phrases terribles que l'on incrimine, c'est le Barrès de l'affaire Dreyfus. Il ne commençait pas si mal, pourtant, lorsqu'on annonce qu'un dossier est instruit et qu'il met en cause un capitaine d'origine israélite, alsacien, Alfred Dreyfus. Il écrit « Il serait excessif et injuste de fusiller Dreyfus car il est israélite ». Bon, c'est pas non plus la grande magnanimité, mais c'est pas non plus la vitupérance qui va avoir lieu par la suite. Léon Blum vient le voir et lui dit « Écoutez, cher Maurice Barrès, ne peut-on pas compter sur vous ?» Enfin, il viendra le voir plus tard, parce que personne ne défend Dreyfus à ce moment-là, effectivement. Oui. En 88, 98, 99 ?
1894, c'est évidemment la dégradation. Là, il y a unanimité. Voilà. Jaurès, d'ailleurs, à la Chambre, regrette que la peine de mort n'existe pas. On aurait dû fusiller ce traître. Et l'affaire, en tant que telle, commence en 1898. Et c'est là que vous avez, effectivement, les premiers doutes que Blum vient solliciter Barrès en disant... que forcément il va se rallier à la cause des Dreyfusards, ce que ne fait pas Barrès.
Vous instruisez le dossier à charge, d'une première, et à décharge. À charge, puisqu'il y a des phrases qui sont effectivement indéfendables.
Oui.
On peut les citer d'ailleurs.
Oui, que Dreyfus soit coupable, je le déduis de sa race. Mmh. Hein, ça, ce sont des formules de Barrès qui sont continuellement rappelées, et à juste titre, puisque, évidemment, elles sont indéfendables. Alors, là, si vous voulez, où il faut être extrêmement précis, c'est ce qu'elles veulent dire, ces phrases. Elles sont impardonnables, évidemment, puisque, a fortiori, nous les entendons, après le XXe siècle et après évidemment la Shoah, etc. Donc, le grand problème, si vous voulez, quand on entend ça, c'est qu'on se dit « Ah !» Vous voyez bien, il y a un biologisme chez Barrès.
Et on peut citer un historien du fascisme.
Zev Sternel, qui, à partir de ces phrases-là, a construit la thèse d'un Barrès précurseur
oui.
du fascisme
oui, c'était la matrice.
Et du national-socialisme. Ce qui est totalement faux. Totalement faux. Donc, la question, si vous voulez, avec Sternel, c'est que, moi je dis toujours, c'est un excellent historien. D'ailleurs, je lui rends hommage dans la biographie en disant ce qu'il cite de Barrès est juste. C'est simplement son analyse qui est fausse, son interprétation qui est fausse. Alors je le démontre très longuement, je vais essayer de résumer très rapidement, parce que c'est un dossier qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances. Là où vous entendez, nous entendons du biologisme, je dis que c'est de la rhétorique. C'est une rhétorique qui est absolument détestable. On sait très clairement d'où elle vient. Elle vient d'un intellectuel, d'un penseur qui avait pignon sur rue d'ailleurs, puisqu'il était disciple de Renan. C'est Jules Souris, qui professait précisément une vision biologique de l'antisémitisme. Barrès reprend à son compte un certain nombre de ces éléments. Mais ce sont des éléments, ce n'est pas une théorie complète. J'en veux pour preuve que ça ne structure pas la pensée de Barrès. Quand l'affaire Dreyfus, j'allais dire, se termine, en fait, elle ne se termine jamais véritablement, se termine en queue de poisson, si vous me passez l'expression, mais vous n'avez plus de traces d'antisémitisme chez Barrès une fois que l'affaire Dreyfus se termine. Ça ne structure absolument pas sa vision du monde, ça ne structure absolument pas sa vision de la nation. Et j'en veux pour preuve, évidemment, que pendant la Première Guerre mondiale, dans les diverses familles spirituelles de la France dont nous allons reparler, vous avez, parmi les familles spirituelles de la France, Barrès se rend bien compte que parmi les soldats, parmi les poilus, il y a évidemment des Français de confession juive participent à l'Union sacrée comme des protestants, comme des socialistes, etc. Et ça... clôt définitivement le chapitre antisémite de Barrès.
Si Mario Varro est encore avec nous.
Oui, oui.
Peut-être peut-il nous parler de ce bel hommage rendu par Maurice Barrès au sang israélite qui effectivement était versé dans les tranchées.
Oui, voilà. Et c'est là justement, ce qui a été dit, qu'on voit que il n'y a pas vraiment de doctrine dogmatique et sectaire chez Barrès, et que son nationalisme est en évolution, il est dialectique. Et en effet, c'est ce texte de 1917 qui est un éloge de l'Union sacrée. C'est un texte qui est souvent cité dans le grand public, dans le débat public, par Alain Finkielkraut. Et moi, je dois avouer que je l'ai découvert via Alain Finkielkraut. Et donc, j'ai voulu lire en entier, à l'occasion de cette émission, ce livre. C'est un livre extraordinaire qui, je pense, doit être lu et étonnamment d'actualité aussi pour notre époque de division très trouble, et qui peut inspirer, qui peut être le ferment comme ça d'un patriotisme français peut-être du futur. Alors, ce que nous dit Barrès, c'est pour revenir sur ce qui a été dit sur l'affaire Dreyfus. Donc on est en 1917, donc on en est pas mal d'années après l'affaire Dreyfus. Ce qu'écrit Barrès dans son chapitre 5, qui est consacré aux Israélites, est assez étonnant quand on sait l'image qui est donnée de Barrès dans le grand public, pour le grand public. Il dit, je le cite, « Beaucoup d'Israélites sont membres naturels du corps national ». Voilà ce qu'il dit. Donc ce Barrès que l'on qualifie d'un antisémite rabique, etc., voilà ce qu'il écrit en 1917. Comme souvent chez Barrès, la doctrine s'appuie surtout sur des personnages. C'est incarné à travers des figures. Il y a plusieurs figures. Il y a la figure d'Amédée Rothstein, ce jeune élève de l'école des Ponts et Chaussées qui a 22 ans et qui meurt au front en 1916. Il y a des figures de ses adoptés. Barrès évoque les Juifs d'Algérie qui sont français depuis le décret Crémieux de 1870. Barrès fait l'éloge des Juifs au combat, notamment il rappelle l'ancestralité de l'épopée des Maccabées. Il décrit aussi cette figure qui est incarnée de ce jeune anthropologue qui est mort au champ d'honneur en 1915, qui s'appelle Robert Hertz, qui est normalien, professeur de philosophie à Douai. Et qui il cite les lettres de Robert Hertz, je cite, « Si je tombe, je n'aurai acquitté qu'une toute petite part de ma dette envers le pays. Et ce jeune Robert Hertz d'ajouter, il y avait dans la situation des Juifs allemands nouvellement immigrés quelque chose de louche et d'irrégulier, de clandestin et de bâtard. Je considère cette guerre comme une occasion bienvenue de régulariser la situation pour nous et pour nos enfants. C'est une citation quand même assez extraordinaire. Barrès d'ajouter, de continuer et d'évoquer le désir passionné d'Israël de se confondre dans l'âme française. On doit avouer que là, pour un antisémite sectaire et dogmatique, ça ne correspond pas à cette caricature qui est parfois faite de l'écrivain. Il évoque également la figure d'un normalien, Roger Cahen, qui trouve le bonheur dans les tranchées, ce qui peut être paradoxal, mais c'est une expérience mystique. Et puis, la figure peut-être la plus connue de ce texte, qui est souvent cité, je le redis, par un Finkielkraut, c'est la figure d'Abraham Bloch, le grand rabbin de Lyon, qui, je cite Barrès, tombe au champ d'honneur en offrant un crucifix aux soldats catholiques mourants. Et Barrès, de conclure, le vieux rabbin présentant aux soldats qui meurent le signe immortel du Christ sur la croix, c'est une image qui ne périra pas.
Il nous reste peu de temps, Mario Varro. Merci pour ces belles évocations et ces belles lectures. Nous aurions pu parler également, mais les auditeurs pourront se procurer et lire les ouvrages. Vous rendez justice également à Barrès sur la réputation qui lui a été faite. La phrase est de Romain Rolland d'être un rossignol du carrelage, qu'en vérité, Barrès a une attitude exemplaire pendant la guerre, notamment écrire certes, mais écrire pour les soldats, écrire pour les survies et pour que l'État pourvoie à leurs besoins, ce qu'il ne faisait pas toujours. Il y a un Barrès qui est au sommet de sa gloire après l'affaire Dreyfus, même si cette affaire trouble un peu sa mémoire, lors de la victoire, le 11 novembre, vous savez où il est, vous savez avec qui il est. Il est avec le président de la République, il est avec Raymond Poincaré à l'Élysée. Donc c'est un Barrès qui est totalement institutionnalisé. C'est un Barrès qui aura une grande prospérité. On peut citer les disciples littéraires et politiques de Maurice Barrès. On a longtemps parlé de son influence sur François Mitterrand, Henri de Monterland, François Mauriac, le général de Gaulle lui-même, qui était plus barrésien finalement que maurassien, contrairement à ce que disent les journalistes. On le voit comme un être paradoxal. Sa postérité avait quelque chose de maudite dès le départ. C'est ce qui est touchant dans votre livre, c'est que finalement il n'y a pas de discontinuité entre la manière dont on le voit aujourd'hui et la manière dont il a commencé sa vie. Un écorché vif qui n'a pas toujours été compris, qui a beaucoup oscillé, qui a beaucoup créé le scandale, qui a été accepté finalement et que peut-être il faut accepter de relire. Il y a le Barrès enfin mourant, souffrant. Vous avez, je crois, une belle évocation de la mort, Bruno Santoram, de Maurice Barrès.
Oui, c'est le témoignage d'Henri Bordeaux qui l'a écrit en 1962.
Quelques secondes.
Oui. « Nos seigneurs les morts », avait dit Barrès dans un de ses articles. « Jamais il ne m'a paru plus seigneurial, lui qui, si naturellement, savait l'être, plus majestueux, plus magnanime que dans cette paix obtenue au prix de la vie. » Et donc, il dit qu'il va avec Paul Bourget lui rendre hommage et ils sortent en larmes.
Merci Mario Varro, merci Bruno Santoram, grand merci Emmanuel Godot. Merci. Maurice Barrès, le grand inconnu, aux éditions Talendier, on vous le recommande. Chers auditeurs, à dans un mois et d'ici là, que Dieu vous garde.
Vous venez d'entendre le libre journal des littératures dirigé par Hector Bournouf. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 30 novembre 2023 de 21h30 à 23h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.